Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, l'image que j'ai, c'est que très vite, il est entre nous. Et en fait, ce qui est dur, je pense, pour le couple, c'est de retrouver cet entre-nous qui ne se résume pas à cette petite personne. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, oui, en dehors de cet enfant qui est entre nous?
Waouh.
Tu vois, c'est ça que je veux dire.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Ah, quel plaisir de t'avoir, Angelo.
Bah écoute, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait à manger.
Oui, c'est vrai. Non. Je fais pas, alors dis pas trop ça, parce que les gens après ils vont croire
j'ai bien mangé
que je fais à manger à tous mes invités. Ça n'est pas le cas.
Attends, j'ai pédalé pour venir. Frère.
C'est vrai qu'il a pédalé. Tu viens de loin, mais on va peut-être en reparler. Angelo, donc ça y est, là, t'as bientôt fait tous mes podcasts.
Ah, ah merde.
Parce qu'on a fait Histoire de succès ensemble,
ouais.
Où tu racontais ton histoire. Ouais. On a fait Histoire de mec,
ouais,
que je vous invite à aller écouter parce que c'est...
On s'est bien marré.
Et là, t'es papa depuis bientôt un an, c'est
ouais,
ça?
Ouais, dans 2 semaines.
D'un petit garçon qui s'appelle Ulysse.
Exactement, Ulysse Young-Follet.
Et j'ai vu, quand je t'ai vu devenir papa, ou en tout cas que t'allais devenir papa, je me suis dit, ok, Angelo, futur, très bon prospect, tu vois, pour me podcast, parce que le gars pense tellement, réfléchit tellement, est tellement en train de réfléchir. J'ai tout de suite imaginé à quel point cette nouvelle paternité, parentalité, allait changer, bouger des choses chez toi. Et j'avais assez hâte, en fait, de t'avoir. J'ai eu ou je vais avoir, je ne sais pas encore.
Ah,
je ne sais pas,
le planning n'est pas fait.
Dans quel ordre ça sera diffusé. Ta chérie, qui s'appelle Estelle.
Ouais. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Alors, comme les choses sont bien faites, l'épisode d'Estelle sortira demain dans Histoire de Daronne, mais également dans Histoire de Daronne, comme vous avez l'habitude. Si vous voulez vous abonner à Histoire de Daronne, je vous invite à cliquer directement dans le lien dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup et à tout de suite.
Avec qui on a parlé de sa maternité dans Histoire de Daronne, mais aussi de son job de psy dédié au transgénérationnel. On a, ouais, on a pas mal parlé de transgénérationnel, comme c'est la première fois que j'en parlais dans mon podcast, c'était trop cool de l'avoir. Et donc te voilà, toi. Et je crois que... Ah non, vous êtes pas tout à fait. J'ai déjà eu un couple qui est venu. Le père était venu dans Daron et la mère est venue dans Daronne. Ouais. Elodie et Guillaume qui ont vécu leur vie en Australie ils ont emmené toute leur famille dans un van.
Ah oui.
Post confinement.
Je suis pas prêt. En Australie. Ouais, on en parlera peut-être. Non, c'est trop petit en van.
En tout cas, merci beaucoup de venir. Je n'ai aucune idée de ce dont on va parler, mais je crois que je t'ai vu parler un peu de parentalité, de paternité,
ouais, au début,
sur
ouais,
les réseaux sociaux. Ouais. T'en as pas mal parlé. Et bah oui, j'imagine à quel point ça t'a secoué. On peut peut-être revenir au tout début.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir papa?
Waouh. Alors c'est intéressant parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a avec Estelle. Évidemment qu'on a on a fait en sorte que les conditions soient telles qu'elle puisse tomber enceinte.
C'est mieux quand même.
En gros, elle a enlevé son stérilet pour la faire courte. Mais aucune idée de quand est-ce que ça allait arriver. Voilà, on savait que des fois ça peut prendre des années, des fois tu passes par un parcours hyper compliqué, etc. Bon. Et puis c'est finalement, c'est arrivé très très vite. Finalement, quasiment après avoir signé l'achat de la maison qu'on a dans la Drôme. Donc, pour moi, c'était assez chouette de sentir que une fois qu'il y avait le terreau propice, lui allait se manifester, quoi. Lui, c'est Ulysse. Et donc, du coup, comment c'est arrivé, moi, pour moi, ce désir, je crois que ça a toujours été présent, notamment parce que j'ai une histoire de daron avec un S, pour le coup. Et donc, le fait d'être un enfant qui a donc eu un père biologique, un père adoptif, et puis qui est fils unique, fait que la question de la place du père a toujours été, alors pas forcément posée comme ça, mais en tout cas toujours été présente. J'ai toujours cherché des pères spirituels, on en connaît certains. Et donc, si tu veux, la meilleure façon de finalement de l'expérimenter, c'était quand même de le vivre moi-même.
On avait parlé ensemble hein, de ton histoire avec tes pères, avec un S, de la recherche de ton père biologique dans Histoire de succès à l'époque, quoi.
Ouais. Donc, si tu veux, pour moi, c'était un peu une case vacante encore, quoi. Ça devait faire partie de mon expérience de vie. Mais par contre, c'est vrai que je suis très cool là-dessus. C'est-à-dire que je j'ai pas de timing à la base. Je me dis pas avant 40 ans ou après 30 ans ou il faut absolument que je sois installé dans telle ou telle chose. Enfin, j'ai plutôt confiance dans les choses, dans la nature des choses. Et en l'occurrence, ben voilà, la nature a été bien faite. Il est arrivé au moment où je pense qu'il a bien voulu arriver. Et le moment où je l'ai appris, ça a été vraiment une surprise, quoi.
Une surprise positive ou une surprise ok, c'était pas prévu à ce point-là, quoi.
Alors ouais, non, c'était surtout une surprise positive dans la mesure où je suis très rarement surpris. C'est pas facile de me surprendre parce que je me laisse pas surprendre beaucoup. Et que
quand tu dis que tu te laisses pas surprendre, c'est-à-dire que tu t'aimes bien avoir les choses en contrôle, c'est
ouais,
ça?
Ouais, ouais, okay. J'aime bien contrôler, enfin en tout cas avoir l'illusion que je contrôle, hein, parce que je contrôle pas grand-chose. Et puis j'aime bien anticiper, j'aime bien prévoir, voilà. Et en même temps, c'est vrai que en parallèle de ça, je suis quand même très spontané. Je dis oui assez facilement quand on me propose un truc. J'improvise beaucoup dans mon travail. Enfin, tu vois, il y a quand même toute une partie où finalement j'ai pas trop le contrôle, quoi. Mais bon, il y a quand même une partie de moi qui cherche à contrôler et à anticiper. Et en l'occurrence, je m'y attendais pas. Même si j'avais conscience que ça pouvait arriver, je m'y attendais pas. Et donc surtout, je me souviens très bien la manière dont Estelle me l'a annoncé. Enfin. Je m'y attendais tellement pas que je n'ai pas compris au début. Elle m'a fait une petite carte avec un dessin de test de grossesse avec les deux barres et une demande qui est « J'ai une demande à te faire, est-ce que tu pourras composer une berceuse pour telle date ?»
Ouais, c'est quand même...
Bah ouais, mais tu vois à quel point je m'y attendais pas. Même quand c'est marqué en gros, je comprends pas le message. Et je suis vraiment
t'as cru
resté
que c'était pour quelqu'un.
Non, je savais pas ce qu'elle voulait me dire.
Ouais.
Mais je pense que j'étais sidéré en fait.
Oui,
tu sais, comme un traumatisme en fait. Hein.
Quoi?
Et du coup, là, ça m'a pris quelques secondes avant de comprendre ce qui était en train de se passer.
Waouh.
Et après, tout de suite, j'étais content. Je suis allé chercher du champagne, machin. Moi, du coup, elle a pas bu.
T'as bu tout seul.
C'est un peu con, d'ailleurs, ouais. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça, spontanément. Et puis, bah, après, très vite, je pense, comme beaucoup de parents, on s'est mis à regarder des trucs sur les parents, sur les bébés, acheter plein de bouquins. Voilà. Mais en tout cas, c'est un désir qu'elle a depuis longtemps parce que c'est une question pour moi de c'est quoi avoir un père et c'est quoi être un fils et c'est quoi du coup être un père et c'est quoi avoir un fils. Et il se trouvait que c'était le bon timing, bon contexte, bonne personne pour ça, quoi.
Ok. Mmh. Comment t'as vécu la grossesse ?
Il y a plusieurs phases hein, dans la grossesse. Il y a la grossesse qui se voit pas au début. Donc moi j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de grands changements. En fait c'est comme si c'était une idée.
Ouais.
Tu vois, c'est ok, on va, t'es enceinte, on va avoir un enfant, mais ça a rien changé en fait.
Et pour nous, en tant que père, c'est complètement extérieur, alors que pour elle, le chamboulement, il est
ça.
Énorme.
Elle sent tout, machin. En plus, elle n'a pas été très très malade. Enfin, ouais, ça...
Oui, elle n'avait pas de signe extérieur.
Non,
de...
elle a pris du poids proportionnellement à, tu vois, au poids de l'enfant et tout ça. Enfin, ça ne s'est pas non plus... Donc la première phase, si tu veux, elle était un peu abstraite. Et puis après, le corps d'Estelle change. Et là, en fait, ce qui est un peu différent, c'est, je pense, au niveau de l'approche que je pourrais avoir vis-à-vis de son corps, vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que il y a un truc chez moi qui comprend que c'est fragile, en fait. Mais c'est bizarre parce qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, tu vois, il y a du chemin encore à faire. Wow. Cette fragilité, en fait, au fur et à mesure des semaines, elle se voit de plus en plus. Et en même temps, c'est fragile et en même temps, c'est puissant. Donc, ça a changé aussi, forcément, dans nos rapports sexuels. Il y avait un truc très paradoxal où elle avait finalement beaucoup envie. Et moi, finalement, je me disais, c'est chelou.
Qu'est-ce qui était chelou?
C'est chelou, il y a quelqu'un dedans.
Ouais.
C'est chelou. C'est chelou, je commence à te voir d'une autre manière. Moi, après, si tu veux, c'était pas la grossesse physiquement en termes de relation qui a été le plus difficile pour moi, c'était juste après. Parce que justement. Une fois que son corps a été endolori par l'accouchement, que son corps sert aussi à nourrir et prendre soin du bébé, ça bug. Ça bug, vraiment.
Il y a un truc plus compatible, c'est plus compatible avec le sexe.
Ou alors, je pense que pour des personnes qui ont des tendances un peu incestuelles, ça pourrait marcher. Mais moi, si tu veux, de toute façon, c'est ce qui se passe. Hein, c'est qu'en gros, même si je n'ai pas envie de la réduire à son rôle de mère, je ne peux que constater qu'elle est essentiellement ça au quotidien pendant les premières semaines, les premiers mois, quoi. Tu vois, elle reprend son statut de femme et son rôle de femme et sa vie de femme en dehors du rôle de mère, qui pour moi fait partie du rôle de femme, un des rôles possibles en tout cas, on n'est pas obligé, mais ça s'est fait progressivement. Donc en vrai, en fait, c'est...
Vous en parliez ensemble ?
On essaie de se dire un peu ce qui se passait pour l'un et pour l'autre.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'autre, mais... Et écoute, dans mes souvenirs, en tout cas, pour moi, ce qui était difficile, c'était de devoir dissocier. De devoir dissocier et puis de... Et en même temps, moi, on en parlera peut-être après, mais aussi moi, de quelle place j'ai dans tout ça, quoi.
Ah bah oui.
Donc, en tout cas, pour le sujet de la grossesse, première partie, c'est un peu... Bon, ok, il y a une info en plus, mais ça change rien. Et je pense que c'est quand ça devient concret physiquement que en tout cas, pour moi, ça a été... la redéfinition de nos rapports, de ma place, comment je suis censé m'investir alors que moi je sens rien. C'est-à-dire que je me souviens des fois où je pouvais moins m'intéresser à je sais pas moi, tu vois, au dialogue avec l'enfant. J'ai fait beaucoup de travail ostéopathique, énergétique, etc. Donc le travail avec les mains, toute cette communication qu'on peut apprendre aussi, tu vois, en tant que père, avec le ventre et avec le bébé, ça me parle beaucoup. Mais c'était extérieur, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Et donc quand c'est extérieur, bah, c'est un peu comme... ça ne me concerne qu'à moitié.
Je comprends.
Ouais.
J'ai un souvenir très vif de tu vois, tu parles de rapports sexuels et d'avoir l'impression que en fait t'es plus avec ta femme ou avec ta compagne tout seul, ou sur la fin de la grossesse, vraiment t'as vraiment la sensation d'être à trois en fait pendant le rapport sexuel.
Ouais.
C'est un peu bizarre.
Ouais.
Et en même temps, tu vois, c'est d'un autre côté, t'as quand même ce rapport avec ta femme, t'es pas tout seul, quoi. Je comprends que ce soit un peu désarmant, quoi.
Moi, l'image que j'ai, c'est que très vite, il est entre nous.
Mmh. Exactement.
Et en fait, ce qui est dur, je pense, pour le couple, c'est de retrouver cet entre nous qui ne se résume pas à cette petite personne, non.
Ah oui, tu veux dire,
qu'est-ce qu'il y a entre nous, en dehors de cet enfant qui est entre nous.
Waouh.
Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, là c'est, je pense qu'on est en train de vivre, puisque du coup, Ulysse va avoir un an, donc ça commence à... Il commence aussi à marchouiller et tout ça, enfin tu vois, donc ça laisse aussi de la place à... Tiens, ok, bah, qu'est-ce que... Et nous, alors?
On fait quoi maintenant?
Ouais, c'est ça.
Quelle est la suite?
Ouais. Et des fois, même, moi, je me vois des fois me réfugier dans le rôle de parent.
Ah.
C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire avec le couple. Donc, je me remets dans mon rôle de père et puis je propose des trucs où je fais des trucs de daron avec le petit ou à trois ou machin. Mais parce que c'est comme un muscle, tu sais, qui n'a pas travaillé, qui a été confiné pendant un moment. Et du coup, merde, comment on s'en sert déjà?
C'est plus simple, finalement, de revenir à ce rôle de père. Pour toi, en tout cas, pour l'instant, là.
En tout cas, ce rôle de père s'impose.
Oui.
C'est pas plus simple, mais il s'impose à moi, puisque mon enfant est né.
Ça.
Notre enfant est né. Donc, et puis, j'étais sûr de m'en occuper. Donc, disons que... Malheureusement, parfois, c'est un peu par défaut aussi.
Ok.
Tu vois.
Ok. Comment t'as vécu l'accouchement?
Ah, c'était marrant, l'accouchement.
Marrant.
Ouais, vraiment. Enfin, c'était un bon moment. Moi, je trouvais que c'était un bon moment. Elle était très sereine quand elle a commencé à perdre les os. On était encore à la maison. Moi je dormais, enfin elle me dit non mais te presse pas, de toute façon c'est pas pour tout de suite, mais bon je prépare les affaires machin, donc ok. Et puis après je me suis quand même réveillé, j'ai fini de préparer les affaires, tout ça, j'ai pris tout ce que je pouvais, parce que je sais pas ce qu'il fallait, on n'était pas vraiment préparé, enfin tu vois.
Oui, elle racontait qu'elle avait une préparation un peu
à l'arrache,
un peu chaotique, c'est ça, par rapport à la
En plus, la sage-femme nous a laissé tomber au dernier moment parce qu'elle faisait la grève, donc on a dû se rabattre sur la salle physio de l'hôpital de Rouen. Enfin, c'était pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. Au final, ça s'est bien passé et donc du coup, on est parti et là, en fait, on a été accueillis, a commencé à avoir des douleurs. mais c'était encore pas pour tout de suite. Donc, moi, j'étais vraiment au service, quoi. Je pense que ce qui était agréable et pour elle et pour moi, c'était que on était dédié à elle et au bébé. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Et puis après, je l'ai accompagnée dans la salle de travail où elle est restée pas mal dans l'eau chaude un moment, avec l'ouverture du col. Je criais avec elle, elle me tenait, je lui tenais les bras, j'appuyais dans le dos quand elle avait mal. Et puis voilà, enfin, j'étais au service, quoi. Donc quand elle avait besoin d'un truc, je faisais sans me poser de questions. Et spontanément, moi, j'essayais d'être dans son énergie, quoi. Donc quand elle criait, je criais avec elle.
Ah, c'est marrant.
Ouais, enfin, j'avais amené de la musique, ça a pas du tout marché, enfin, elle en voulait pas au final. J'avais appris un tambour de chamanisme, pareil, ça m'a dit non. Donc en fait, ça a suffi, on se suffisait, quoi. Voilà. Et en fait, la sage-femme, elle est arrivée vraiment à la toute fin pour finir le boulot, quoi. Mais sinon, on était vraiment ensemble, quoi.
Ok.
Et c'était cool, en fait. J'ai vraiment le souvenir qu'à la fin de l'accouchement, quand on lui dit c'est bon, il est sorti, Estelle dit ah bon déjà?
Ah yes.
T'es là genre bon, ok. Et en fait.
En plus, elle a accouché sans péridurale, elle me racontait tout.
En 4 heures. Okay. Bon, et là vraiment, un truc que je m'étais jamais dit et que j'avais pas ressenti encore, c'était vraiment cette espèce de. D'admiration, quoi. D'espèce de truc hyper respectueux de waouh, ouais, ok. Ok, ça c'est ça, t'as fait ça toi, ouais, d'accord. Et voilà, enfin, je quelque part, c'est peut-être un moment où je me suis dit ouais, je comprends que les hommes accouchent pas, quoi.
Ouais.
Je t'avoue que j'ai moi je me coupe le tu vois je fais une, je me coupe en voulant couper du pain, et là c'est le drame absolu, quoi. Donc voilà. Donc, non, je supporter la douleur et tout ce qui va avec comme ça, c'est fou. Je pense que tu dois être fou à ce moment-là. Tu dois être hors. Il paraît que c'est quand même une forme de transe. Donc, et elle avait l'air quand même bien, bien perchée.
Elle en parle pas mal dans l'épisode que t'as pas encore écouté.
Bah non,
mais
du coup, ouais,
effectivement, après c'est ton point de vue, c'est son point de vue. Mais je peux comprendre que toi de l'extérieur, tu regardes tout ça. Et en fait, j'ai eu à peu près la même intuition, tu vois. Mais en fait, c'est évident que c'est aux femmes d'accoucher et que nous, on est juste des bébés en train d'être à côté, de leur tenir la main et de leur taper et de respirer avec elles, quoi, tu vois. On est tout juste bon à ça, en plus.
Ouais, je pense que c'est plus facile de détruire, quoi.
Tu parles de masculin, c'est ça?
Ouais, je parle de guerre, parle des hommes qui sont beaucoup plus capables de mettre leur énergie et leur agressivité pour ça. Et c'est intéressant et utile de savoir détruire, de savoir déconstruire, de savoir repartir à zéro, de savoir faire tout ça. Mais il se trouve que malheureusement, on l'utilise pas toujours pour
les bonnes choses.
Pour du bon.
Pour les bonnes raisons.
Ouais.
Comment se passe la rencontre avec ton fils?
Écoute, c'est compliqué, très compliqué pour moi. C'est pareil, il y a eu plein de phases. Hein. Disons qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est vraiment mon fils. Mais au début, on reste encore sur le thème de l'étranger, de l'extérieur. Je pense qu'au début, je m'en suis occupé. Comme je me serais occupé d'un autre bébé, en fait. Enfin, tiens, voilà, est-ce que tu peux le garder? Bah oui, je le garde. Est-ce que tu lui donnes à manger? Ouais, je lui donne à manger. Est-ce que tu... Enfin, tu vois, ce truc un peu de... Ça a été très long pour moi, premièrement, de le voir comme un humain.
Ok. Tu Tu le voyais quoi comme un...
Une sorte d'animal.
Un petit animal.
Ouais, ouais. Un petit animal, quoi. Mmh. Et après, j'ai commencé à sentir et à le considérer comme un humain, de le considérer comme mon fils, et ça a pris beaucoup de temps.
Combien de temps ?
Moi, je dirais au moins 6 mois.
Ok.
Ouais. J'avais vraiment l'intuition que ce qui allait changer, c'est quand il allait commencer à pouvoir s'adresser à moi. Okay. Donc, soit par le regard, soit par le geste, puis après, au fur et à mesure, avec les sons et tout. Et donc, à peu près, ouais, entre 3 et 6 mois, quoi, tu vois.
Tu te posais pas des questions, toi, de merde, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va.
Ah, bah, moi, je me détestais.
Oui.
Ah, moi, je me suis dit, bah, ok, enfin. Déjà, t'es pas mieux que l'autre, là. Que le premier, là, qui est parti.
Tu parles de ton père biologique.
Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bah, ok, c'est. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais je comprends. C'est comme si, à la fois, je me disais, mais en fait, je suis pas mieux. Et en même temps, je disais, mais je comprends pourquoi il est parti, en fait, parce qu'en fait, c'est absurde ce qui est en train de se passer, là. Ça n'a pas de sens, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je pense que ce qui a été très dur pour Estelle, je ne veux pas parler à sa place, mais j'ai cru comprendre, en tout cas, que moi, j'accueillais vraiment sincèrement le désamour, le non-amour en tout cas, enfin pas le désamour du coup parce que je l'aimais pas avant, mais le non-amour et la enfin l'état dans lequel je vivais ce truc là d'étrangeté quoi, tu vois. Et du coup elle se sentait beaucoup beaucoup seule. J'ai cru comprendre aussi qu'elle avait énormément aimé ma présence pendant l'accouchement. Parce que c'est ce que je te disais, c'est que là, on était vraiment ensemble, quoi.
Ouais. Une fois que le petit est arrivé.
Ouais.
Et
puis surtout de voir que, en fait, je crois que c'est ce que je t'ai écrit par texto, c'est de voir que je serais pas la mère, quoi. Et donc du coup, ben là, en l'occurrence, ben il veut sa mère, ou en tout cas ce qu'elle représente à ce moment-là. J'avais besoin pour me sentir son père qu'il me le fasse sentir. J'avais besoin de mon fils pour me sentir son père. Et tant qu'il pouvait pas s'adresser à moi. Et s'adresser à moi d'une manière différente
que par rapport à Estelle.
C'était très dur, quoi. Au début, moi j'avais l'impression de pas servir à grand chose ou d'être un peu dispensable, quoi. Tu vois.
Estelle a allaité pendant 3 mois aussi. Donc
ouais. Ouais.
Elle a beaucoup ce lien-là.
Aussi, ouais, et c'est pas très long, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, aujourd'hui, beaucoup de femmes qui allaitent beaucoup plus
longtemps.
Beaucoup plus que ça. Et elle avait besoin de retrouver son corps, de retrouver son autonomie, de retrouver son travail, de retrouver moi. Enfin, voilà. Donc, que je puisse aussi lui donner à manger. Enfin, tu vois, ça a changé beaucoup de choses aussi, le choix d'avoir arrêté l'allaitement. On survalorise l'allaitement, tous les trucs naturels et tout machin. Mais je pense qu'un enfant, il a surtout besoin de parents qui sont en harmonie un minimum.
S'entendent bien, oui, bien sûr.
Et si, au fait, d'arrêter l'allaitement et de remettre un peu de place dans le fait d'alimenter son enfant de la part du père, ça peut rééquilibrer quelque chose. Je pense que c'est important de le faire, quoi. Donc voilà, donc si tu veux, le moment où je pouvais exister dans son regard, dans ses mains, dans sa voix, à ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir aussi prendre cette place-là. Mais moi, si tu veux, je suis comme ça aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire que c'est pas typique de la parentalité, même si je pense que ça peut avoir un lien. C'est-à-dire que j'ai une manière d'être qui est que la plupart du temps, si je sens qu'il y a mieux que moi ou qu'il y a plus adapté que moi ou qu'il y a meilleur que moi ou que pour telle ou telle place, fonction ou quoi que ce soit, mon premier réflexe, ça va être de laisser la place. Soit pour pas être en échec et tu vois, passer mon temps à me dire que je suis deuxième ou à me dire que je fais moins bien ou que c'est pas pareil ou que machin. Soit aussi pour des raisons de bonne intelligence, c'est-à-dire ben, tu le feras mieux que moi, donc vas-y, fais-le. Enfin, tu vois, moi je ferai autre chose et je le ferai d'une manière. Voilà. Donc, et ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup manifesté avec Ulysse. Quoi.
Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là entre Estelle et toi, de ton point de vue, par rapport à cette phase où tu es en train de te chercher, tu es en train aussi de lui laisser peut-être cette place là où peut-être à ce moment-là, et si j'ai bien compris, elle était en attente, tu vois, de ta part, et que tu disais qu'elle avait mal vécu ton non-amour.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe entre vous ?
Ben... Je veux dire, en dehors de la fatigue immense
putain.
Et du fait d'être complètement perdu, de pas avoir de repères. En fait, en plus, on est un jeune couple. C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, donc... On apprend à se connaître, mais on apprend à se connaître à travers cette expérience-là aussi. Donc, plus dans une nouvelle maison. Enfin, si tu veux, le contexte faisait que il y avait très peu de repères.
Ça fait 3 ans, c'est ça que,
ouais,
que vous êtes
ensemble. Ça fait 3 ans. Et en fait, du coup, le déménagement dans la maison, la Drôme, là où on connaît personne, Ulysse. Et puis, bah, toute l'adaptation que ça demande un peu de changer de vie, fait que c'était... compliqué de trouver un peu sur quoi on pouvait s'appuyer, quoi. Et donc, du coup, bah, entre nous, je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup pris sur elle pour me laisser vivre cette espèce de non-amour ou de non-paternité qu'il y a eu au départ. On a assez vite fait le choix. Je demandais à mes potes d'Aaron, vous faites quoi dans ces moments-là, machin. Enfin, ah bah oui, bah nous, on a décidé que finalement, elle dormait avec lui et puis moi, je dors dans notre chambre, comme ça, je peux reprendre le relais le matin. Enfin, chacun a ses stratégies pour que ça se passe bien, mais en fait, c'est très unique à chaque famille, à chaque couple. Et du coup, c'était, je pense que ça a créé une sorte de faille, ces moments-là où on a vu qu'on pouvait ne pas être ensemble. En tout cas, qu'on pouvait ne pas être du même côté. Pas être dans le même camp. Et du coup, cette faille-là, elle se réouvre beaucoup plus facilement maintenant. C'est-à-dire que si on s'engueule, ça va beaucoup plus vite de sentir qu'en fait, on n'est pas du même côté, quoi. Et qu'on est dans avoir raison, et qu'on est dans... essayer de donner tort à l'autre, essayer de défendre son truc, voilà, et où c'est hermétique presque, tu vois. Donc en fait, ce qui est cool, c'est quand finalement Ulysse a commencé à pouvoir s'adresser à moi et que moi j'ai pu commencer à me sentir intégré dans cette relation. Que en fait notre couple et puis la relation à trois aussi a pu commencer à être un peu plus un ensemble uni, quoi.
Comment ça se passe alors depuis 6 mois maintenant que t'as la sensation d'avoir réinvesti toi cette relation de père ou de l'avoir
comment
investi?
Comment ça se passe avec Ulysse ou comment ça se passe avec Estelle ou comment ça se passe avec les trois?
À tous les nouveaux.
Bah moi j'apprécie beaucoup plus. La paternité. Plus les semaines avancent et plus je sens que c'est la chair de ma chair. Enfin, tu vois, il y a enfin ce truc corporel que je sentais évidemment pas au début.
T'as un souvenir, un déclic, un truc qui t'a fait switcher ou c'est venu petit à petit?
Bah, ça a commencé vraiment avec des regards adressés. Et puis des moments, je crois, où par exemple, où il arrivait à s'endormir avec moi, okay. Ou dans mes bras, ou tu vois, où tu sens que la tête elle se pose et que c'est pas juste un petit animal qui a juste besoin de dormir, même si c'est le cas, mais que je sais pas comment dire, tu sais, c'est exister, c'est quand même un truc super particulier où c'est quand même l'autre qui, à un moment donné, par son comportement, son énergie, ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, va
te renvoyer quelque chose.
Ouais, en fait, c'est l'autre qui te fait exister. Enfin, on n'existe pas tout seul, mais c'est jamais. C'est l'autre qui te fait exister parce qu'il te regarde ou parce qu'il te prend en compte ou qu'il te reconnaît ou qu'il s'adresse à toi. Et à ce moment-là, en fait, c'est. Ouais, cette espèce de moment où. Comme si moi, je l'avais interprété de j'ai envie de m'endormir dans tes bras.
Oui, c'est ce que j'allais te dire, voilà. Aussi, c'est que ça vient aussi de ta propre interprétation.
Exactement,
à un moment donné.
On en est tout. Hein. Oui. Je dis ça, et ça se trouve, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein.
Oui, bien sûr. Mais peu importe, parce qu'à la fin, ça finit par t'apaiser toi, et que c'est pas si important que ça, finalement, c'est ce que lui te renvoie. Mais ouais. T'avais besoin, t'as l'impression d'avoir ces 6 mois-là pour peut-être atterrir, quoi.
Ouais, j'avais besoin de ça, et en même temps, il y a... j'ai une petite particularité physiologique, c'est que je fais de l'hyperacousie. Donc j'ai des troubles du spectre autistique, voilà. Mais si tu veux, l'hyperacousie fait que je suis très sensible au bruit. Et enfin voilà, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui se décèlent comme très sensibles. Et c'était surtout pour moi, enfin tu vois, les cris, les pleurs, l'agitation. Mon environnement était agressif en permanence, quoi. Et dans ces moments-là, en fait, je sais pas comment dire, c'est même pas une question de conscience ou d'intelligence ou de bonne volonté, c'est que je peux pas. Il y a un truc qui fait que le seul truc que je peux faire, c'est m'éloigner de ça, me couper de ça. Donc ça a vachement joué aussi sur la distance qu'il y a eu entre nous. C'est-à-dire que, évidemment, qu'un enfant qui pleure dans tes bras, il a vraiment besoin d'être rassuré, consolé, sécurisé, etc. Et sauf que moi, en fait, tout de suite, ça me tend. Et donc, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Hein. Estelle aussi, ça lui a fait ça. Sauf que moi, dans ces moments-là, en fait, j'avais pas la capacité de contenir, j'avais pas la capacité de d'être le parent, en fait. Enfin, tu vois, ça a joué beaucoup. Et donc, de ce fait, maintenant qu'il babille un peu plus, qu'il commence à dire des petits mots, on sait pas trop ce qu'il dit, mais il dit quand même des choses, enfin... il y a un langage, en fait. Et le langage, je pense que l'arrivée du langage, pour moi, ça a été vraiment un déclic. Même si c'est pas encore formulé à travers des mots et des signes compréhensifs. Parce que ça fait le pont entre nous, quoi. Alors que quand t'es en fusion avec ta mère, t'as pas besoin de pont. Tu es ta mère. Ta mère et toi. Donc, tu vois, il n'y a pas de pont. C'est juste, enfin. Et nous, le pont, il a mis 6 mois avant de se construire et aujourd'hui, c'est cool. Et après, du coup, ce qui a fait la différence avec Estelle, en parallèle de cette évolution avec Ulysse, c'est que elle a aussi eu plus de moments où elle s'est sentie un peu plus dans la puissance, un peu plus dans l'incapacité, où moi, je pouvais arriver presque, tu vois, comme une solution, comme un point de repère, quoi, tu vois.
Où t'as un rôle, finalement.
Où j'ai un rôle, ouais. Mais tu vois, ce qui est difficile, c'est pour moi d'apprendre que c'est pas parce que l'autre a un rôle que toi t'en as pas. Et je dirais que c'est plus d'apprendre à être parent à deux.
C'est tellement précieux ce que tu dis, tu sais, parce que je crois que c'est le cas de plein de jeunes pères.
Ouais.
Qui se retrouve effectivement extérieur à cette relation fusionnelle, comme tu dis, où ton enfant est fusionné avec leur mère, et que c'est d'autant plus j'imagine à quel point aussi c'est valorisant pour c'est marrant parce qu'on n'a pas trop parlé justement avec Estelle de cette fusion là j'imagine à quel point c'est valorisant aussi pour elle à ce moment-là d'être fondamentalement, et c'est important en plus pour le développement de l'enfant.
Alors cela dit, je crois qu'elle c'est pas le truc qu'elle a préféré, hein.
Ok.
c'est de ce que je comprends, c'est très difficile pour elle de d'être cette figure d'attachement primaire, d'être voilà, enfin elle se barre une journée et demie et c'est un drame. Moi je me barre une semaine, il se passe rien, enfin. Et du coup, c'est à la fois un privilège et à la fois une énorme responsabilité qui peut être très très pesante.
Mais elle racontait que vous étiez à la fois elle avait envie aussi de retrouver un peu son rôle de femme, et que elle racontait qu'elle avait beaucoup de masculin en elle. On a parlé d'énergie masculine, d'énergie féminine, etc. Ouais. Et que toi, de ce fait-là, t'étais aussi en train de chercher et que finalement, vous vouliez tous les deux être les deux parents. Finalement, le père et la mère.
Ouais, c'est un peu. Ce qui est cool, c'est-à-dire le gars, il a quatre parents, quoi. Mais ça doit être chiant d'avoir quatre parents. Déjà deux, c'est chiant. Mais alors quatre, t'imagines? Bah ouais. Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est pas d'avoir quatre parents. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'ils soient là en même temps. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que c'est apprendre que quand l'autre a un rôle, ça veut pas forcément dire que ça annule le tien. C'est juste que moi, disons que j'ai plutôt tendance à essayer d'aller compléter ce qui manque. J'ai un filtre dans mon expérience, dans mon vécu, qui est que je vais d'abord observer ce qui manque ou ce qui va pas ou machin. C'est comme ça que je perçois le monde, moi. Et donc, du coup, si ça manque pas, j'y vais pas. Sauf que si l'autre attend que justement. Que moi, enfin, si par exemple Estelle attend que moi justement je prenne en charge quelque chose pour la remplacer, elle peut attendre longtemps puisque tant qu'elle le fait, je le fais pas. Tu vois ? Donc on peut parler du ménage, on peut parler de. Ça marche pour tout, hein. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'être complémentaire mais sans forcément que. Il faille cette espèce de vide ou de place vacante pour pouvoir prendre une initiative ou pour pouvoir anticiper ou penser à quelque chose, quoi.
Tu racontais au tout début, tu l'as mentionné en disant que Ulysse est arrivé finalement quasiment en même temps que l'achat de votre maison.
Ouais.
C'est un move aussi que vous avez fait dans votre vie où vous avez décidé de quitter Paris pour aller vivre dans la Drôme et finalement vous êtes en train de finalement quitter cette ville-là pour revenir un peu plus vers la ville.
Ouais.
Et tu me disais, c'est comme si on était dans un confinement permanent depuis un an en vase clos à Troyes, quoi.
Ouais, c'est... alors déjà, bon, la Drôme, il y a plein d'endroits, mais là, en l'occurrence, c'est quand même 200 habitants, donc dont des vaches. Donc
200 habitants, dont 150 vaches.
Voilà, dont 150 vaches. 201, puisque ça y est, Ulysse compte comme un nouvel habitant. Non, mais si tu veux, le confinement, je pense qu'il est... le sentiment de confinement, en tout cas, il est surtout dû à l'isolement social. Et en fait, il y a vraiment cette idée qu'il faut un village pour élever un enfant. Et que, en l'occurrence, là, le village, il se résume à nous deux et un peu de personnel à la crèche. Et voilà. Et donc, loin de la famille, loin des proches, loin des amis qui ont aussi d'enfants, qui... tout ça fait que y a eu ce sentiment de confinement, quoi. Évidemment, nous, on a choisi une maison qui était aussi un peu isolée, etc. Enfin, voilà, tout est fait pour quand même être au calme, certes, mais un peu trop calme.
C'est un petit peu trop calme.
Il y a un peu rien là, quand même. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était super pour accueillir un enfant, pour être dans un endroit paisible, pour avoir de la place en crèche facilement, pour avoir de la place en maternité facilement, pour tout ça, pour être dehors en cas de Covid, en cas de machin, enfin tu vois, pour avoir. Si tu veux, ça nous a quand même la parentalité coupée beaucoup aussi de notre environnement extérieur à nous. Personnel parce que ton monde quand même tourne autour un peu de ça hein, au début hein, c'est normal et du coup voilà là il y a un grand besoin de retrouver du lien, retrouver des proches, retrouver de la famille, voilà, enfin se sentir aussi soutenu et puis faire partie d'eux, tu vois, là on fait c'est un peu une autarcie, c'est-à-dire qu'on vit sur nous-mêmes, entre nous, quoi. Il y a un truc, une espèce d'entre-soi à trois, dont un qui parle pas. Donc ça fait un peu limité en termes d'interaction. Et donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de retrouver plus du côté de Bordeaux et du Médoc.
Et vous, surtout si j'ai bien compris, vous aviez aussi ce truc où, dans ces moments de prise de tête, etc., pas d'amis à qui vous confier autour de vous, enfin,
bah non,
en tout cas de façon plus compliquée, moins naturelle, j'imagine. Quoi.
Ouais, c'est que en fait, l'autre est, enfin le partenaire en l'occurrence est tout. Donc c'est celui à qui tu t'engueules, c'est celui à qui tu te rabiboles, c'est celui le confident ou la confidente, c'est qui fait tampon, c'est enfin voilà, c'est partenaire, c'est ça, c'est que le monde se résume à deux personnes en fait, et du coup c'est très vite isolant, étouffant, etc. Et donc encore une fois, on suit notre intuition et on se dit tiens. Là, si on fait pas quelque chose, on va étouffer, ça va pas pouvoir, y aura pas de croissance, quoi, y aura pas d'évolution, y aura pas de développement dans ce système, cette famille, ce couple, et donc du coup, on va changer d'environnement pour justement que ça pousse un peu autrement, quoi.
Comment tu vois ta relation avec ton fils évoluer là depuis 6 mois maintenant?
Eh ben, tu vois, le premier truc qui me vient, c'est qu'il se touche pas mal le sgeg depuis quelques mois, quelques semaines.
Merci. Merci de ce partage.
Et il essaie de choper le mien, que ce soit quand on prend le bain ensemble ou quand je le douche ou machin. Et c'est excellent. Enfin, du coup, je dis non, le tien, il est là, ça, c'est le mien, machin. Enfin, tu vois, je apprends un peu les limites du corps et tout. Et tu vois, sans se parler, et ben, il y a un truc de buddy, quoi, tu vois, un truc de poteau, quoi, genre en mode, on est, tu vois.
Écoute, je crois que t'es le premier daron qui me confie qu'en fait...
T'as fait 150 darons et...
T'es en train de... Ton fiston qui essaie de te choper les sgegs pour...
Bah, il touche le sien, en fait. Il est dans la découverte de ça. Et du coup, il me voit aussi, moi, chat. Enfin, tu vois, essayer de choper le mien et tout. Et en fait, c'est hyper... Je sais pas, il y a une complicité comme ça qui est là, qui me fait marrer.
Là pour le coup t'es vraiment dans ok en fait je suis son père et en fait on est pareil,
ouais.
Et tu vois il y a ce truc un peu, on sent qu'il y a un peu ce truc de ok en fait on est les mêmes et donc il ouais. y a ce lien là
oui temps. Oui en fait c'est là où moi je trouve que c'est hyper joyeux d'être papa, c'est justement des moments comme ça de complicité, des moments alors, au début, ça passait juste par la reconnaissance, c'est-à-dire j'arrive dans une pièce et il me regarde et il me sourit. Bah, forcément, c'est hyper agréable, mais là, il y a un échange, il y a une complicité, puis il y a un début de transmission aussi, quoi. Tu vois, c'est ça qui est cool. C'est donc moi, j'ai vraiment hâte de faire vraiment des trucs avec lui aussi, entre guillemets, dans le sens qu'on puisse découvrir ensemble des jeux, des sports, des n'importe quoi. Enfin. Je suis assez ouvert là-dessus, donc et voilà. Et c'est pour moi, c'est j'avais vraiment, comme je te disais tout à l'heure, le sentiment, l'intuition que notre temps allait venir avec le temps et qu'il n'y avait pas à forcer quoi que ce soit. Tu vois, d'ailleurs, on en parlait avec Estelle hier, c'est que. Il arrive que si par exemple je vais le chercher à la crèche ou que je revienne d'un week-end de travail ou machin, que s'il est dans les bras de quelqu'un, tu vois, y a ton papa qui est là, machin, il me calcule pas, il me regarde pas, il a pas spécialement envie de venir dans les bras. Moi je me vexe parce que c'est hyper vexant, mais je force pas, c'est-à-dire que je sais que il va prendre le temps et il y a un moment donné où il aura envie de me retrouver et c'est ok. Et en fait, c'est ça que je trouve important. C'est, tu vois, ça fait partie des choses qui font que ça y est, je le considère comme un humain. C'est-à-dire qu'il a sa conscience, il a son rythme, il a ses envies, tu vois. Il gère pas tout encore, et évidemment, c'est normal. Et, mais faut que je respecte aussi son qui il est, quoi, qui il est, qui il a envie d'être, et voilà. Et donc, du coup, c'est ça qui est cool, quoi. C'est qu'il y a une interaction et un début de transmission.
Pour revenir sur les histoires de ce gag,
ouais. Tu vois,
t'as la sensation que. Je fais des transitions, tu sais, vous savez, monsieur, je suis intervieweur. Mais en fait, est-ce que tu as la sensation par rapport à ton histoire perso où justement t'as cherché pendant des années ton père biologique, etc., que c'était plus simple ou plus compliqué pour toi d'avoir un fils par rapport à si t'avais une fille, par exemple ? Tu t'es déjà posé cette question ?
C'est carrément plus simple.
Ouais.
Ah ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Estelle. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on en ait un deuxième. Pas tout de suite. Elle non plus, clairement. Et que ce soit une fille, évidemment, pour des questions de, tiens, ce serait cool qu'il y ait un garçon, une fille. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas.
D'équilibre de l'univers.
Voilà, probablement de masculin et féminin. Mais je lui dis, par contre, clairement, pas tout de suite. Pas parce que, déjà parce qu'on n'a pas l'énergie, le désir et le temps. Mais surtout parce que je. C'est une énigme, c'est encore plus une énigme, quoi. Et elle, je pense que ça la challenge aussi, hein, d'avoir une fille. Hein.
Par rapport à son. Oui,
ouais.
Vu ce qu'elle m'a raconté.
Son histoire mère-fille, c'est compliqué. Moi, mon histoire père-fils, c'est compliqué. Quand bien même j'ai un père, mon papa affolait, voilà, c'est absolument pas compliqué avec lui. Hein. C'est l'histoire qui est compliquée, mais notre relation, elle est géniale. Et du coup, non, c'est, pour moi, c'est bien d'apprendre à être un papa avec un fils d'abord. Ouais.
Ça reste une énigme pour moi.
Mais j'en sais rien. Hein.
Moi qui ai deux fils, si tu veux.
Voilà.
C'est...
Puis vu que je sais pas ce que c'est que d'avoir une fille, je te dis ça, j'en ai aucune idée. Mais disons que par rapport à cette histoire de ce gag, pour le coup, oui, peut-être que je suis un peu plus à l'aise aussi de parler de ça comme ça aussi.
Est-ce que tu as la sensation de revenir vers la famille, etc., que ça va aussi vous permettre de pouvoir, Estelle et toi, réinvestir votre couple tous les deux, de sortir un peu de votre rôle de parent, ou alors c'est déjà un travail que vous avez entamé l'un et l'autre?
Je pense que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, quoi. C'est-à-dire, effectivement, que les rôles et les domaines et les natures de relations et les systèmes soient vraiment distincts. Et ça, c'était très dur au début parce que je me souviens lui avoir partagé le fait que elle me disait, il y avait une copine à elle qui était là en plus, donc c'était deux contre un à ce moment-là, surtout moi contre elle. Et elle disait justement qu'elle avait besoin de se sentir reconnue et valorisée en tant que femme dans son rôle de mère.
Ok.
Toi aussi, t'es fait cette tête.
Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire donc?
Mais merci.
Attends, non, mais je cherche en plus.
Mais,
hein.
Mais moi aussi, je cherche toujours ce que ça veut dire.
Ah, elle a pas pu...
Bah, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas hyper simple à comprendre, quoi. Que, en fait, moi, j'étais obligé de dire c'est soit la maman, soit la femme. Que, évidemment, la femme comprend la mère, puisque c'est la même femme qui fait la mère.
Bah oui.
Ok. Mais, ça veut dire quoi, du coup?
Ça veut dire que toi, en tant que mec,
avoir de la reconnaissance ou de valoriser la femme dans son rôle de mère. Enfin, ça m'a fait bugger comme toi là, exactement.
Okay, okay,
et je bug pareil qu'il y a quelques mois. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas du tout clair pour moi en fait cette question, cette demande, ce besoin. Et parce que probablement, pour répondre à ta question, que moi j'ai vraiment besoin de distinguer les deux. Alors que évidemment, elle peut pas distinguer les deux. C'est la même personne à chaque fois. Enfin, si tu veux, une autre facette, mais la même personne. Quoi. Enfin, mais moi, évidemment que c'est plus facile parce qu'en gros, quand elle va être avec Ulysse, bah, ça va être la maman. Et quand elle va pas être avec Ulysse, ça va pas être la maman. Puis quand on va être tous les trois, bah, du coup, il va y avoir des moments où on est centré sur la relation familiale et d'autres moments où on est centré sur... c'est pas parce qu'on est tous les trois qu'on veut pas s'embrasser. Vraiment,
bien sûr,
tu vois.
Oui.
Mais j'ai bien conscience que quand on s'embrasse, c'est pas la maman que j'embrasse.
C'est la femme.
C'est ma femme. Et du coup, moi, c'est très binaire, en fait. Mais pour elle, vu que je pense que c'est la même personne, elle a, il y a un besoin chez elle, et puis bah, chez son amie aussi qui était là, apparemment, puisque c'était...
Elles étaient d'accord.
C'était en écho.
Oh, ouais. Ok, ok, ok.
Et du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait besoin que je reconnaisse et que je... Que je comment on pourrait dire ça, que je valorise ce qu'elle tout ce qu'elle faisait en tant que mère, mais
vous le voyez pas là, mais il est en train de galérer pour essayer d'expliquer
pour la femme qu'elle est, enfin un truc comme ça quoi.
Okay.
Donc c'est très particulier parce que je ne sais pas, je crois que je sais toujours pas finalement par quel biais, par quel angle ça passe, comment enfin tu vois, est-ce que c'est je sais pas, c'est vraiment super comment tu t'occupes de lui, enfin
en fait je t'aime
machin.
Pour ça, enfin c'est ça, et je
ouais
au sein de, je t'aime
oui,
en tant
mais
que
du
femme
coup, c'est qui alors, c'est le père qui parle pour Ulysse,
okay.
Enfin c'est hyper confusant, mais je pense que c'est ça hein, une famille hein. C'est que il y a un moment donné où il y a une porosité des places qui fait que c'est normal que ce soit le bordel les familles hein, globalement, parce que et encore là on va commencer à bosser ensemble, donc t'imagines qu'il y a une nature de relation en plus, il y a une écharpe en plus.
Tu vois. Alors l'écharpe, si vous ne l'avez pas, je vous mets un lien,
oui, voilà.
Parce que j'ai fait une vidéo sur l'écharpe. Hein, pour,
ah bah, voilà, tu vois, donc c'est bien, je te...
Expliquer aux gens ce que ça veut dire que ouais. L'écharpe est d'avoir plusieurs relations.
Voilà, on peut avoir plusieurs natures ou types de relations avec la même personne. On peut donc être conjoint ou couple, parent, et puis collègue si on bosse ensemble. Et donc là, on bosse ensemble.
Voilà. Waouh. Ok. Alors, peut-être les gens peuvent nous dire, venez sur mon Discord, venez envoyer des messages sur Insta, si vous, peut-être en tant que femme ou en tant que père, vous comprenez
grave.
Mieux
ouais.
ce que veut dire Estelle. Mais effectivement, peut-être qu'il y a ce truc où elle dit, moi j'ai envie que tu me valorises au sein de notre couple, en tant que femme, en tant qu'amoureuse, aussi parce qu'en fait, je suis une mère bien, quoi.
Ouais, mais du coup, là, tu vois, la fin, elle me fait bugger.
Salut, ici le Fab du montage. Alors, comme j'ai la possibilité... d'avoir Estelle sous la main, je lui ai tout simplement envoyé un message en lui faisant écouter cet extrait, en lui disant « qu'est-ce que tu voulais dire exactement ?» Et donc voici sa réponse qu'elle m'a envoyée également par message vocal. Est-ce que c'est pas beau ça ? Allez, let's go !
Coucou Fab, alors pour revenir sur la phrase qui pose question, là, reconnaître et valoriser la femme dans son rôle de mère, en fait pour remettre un peu le contexte, j'imagine que Angel Holden, mais... Ulysse devait avoir 2 mois et demi ou 3 mois, donc c'était assez récent et j'étais un peu au début de la matrescence. Et en fait, au moment où je disais ça à Angelo, ce que j'essayais d'exprimer, c'est qu'en fait, j'avais besoin de me sentir soutenue et encouragée dans cette transition et ce changement d'identité qui était celui de la femme à la mère. Et qu'en fait, j'avais besoin de soutien et d'encouragement, pas en tant que maman, et pas j'avais pas besoin d'entendre que j'étais une bonne mère, mais j'avais besoin que mon mec me soutienne et m'encourage dans cette transition, connaissant qui j'étais en tant que femme. Quand je dis en tant que femme, en fait, c'est en tant que personne, quoi, en tant que Estelle. Et pas que en tant que figure maternelle. Voilà, et donc c'était à la fois me soutenir, m'encourager en tant que personne qu'il connaît, qui est en train de vivre cette transition et ce changement, avec tout ce que ça peut impliquer pour moi, individuellement et personnellement, de devenir une maman. Et puis aussi de me soutenir en tant que femme, dans le sens en tant que sa femme, entre guillemets, c'est-à-dire en tant que son partenaire de vie. Et là, je me rappelle qu'à ce moment-là, ce que j'entendais surtout, c'est que je manquais de dans mon ressenti de solidarité, quoi. Je trouvais que... Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui vivent ça aussi, mais qu'on était beaucoup dans plutôt une lutte de pouvoir, et ce que je ne juge pas, hein, mais que je comprends aussi, parce qu'on était tous les deux en train d'essayer de vivre cette transition et d'embrasser ce rôle de père ou de mère, mais que dans cette transition-là, on avait un peu perdu la solidarité sur laquelle moi je comptais pour que justement ce changement et ce tsunami de la paternité puisse être vécu de manière un peu plus fluide, quoi, et pas dans une lutte incessante. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. En même temps, j'accepte tout à fait que ce soit flou comme expression. Je pense que ça traduit aussi beaucoup le flou que je pouvais vivre et que beaucoup de mamans vivent quand ça fait 2 mois et demi que tu es devenue maman. Et qu'en fait, tu es en plein deuil de ce que tu étais avant, sans forcément être encore dans l'après, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une zone, je pense, une zone de flou et une zone de transition qui fait que du coup, cette expression, elle traduit bien à la fois l'ambivalence et en même temps l'indéfini de la situation. Voilà, allez, bye.
Donc j'en profite pour vous rappeler que l'épisode d'Estelle sortira demain mardi, que vous pouvez la retrouver si vous écoutez un peu plus tard dans Histoire de Daronne en cherchant Estelle. Vous la trouverez sans aucun problème et ça promet d'être également super. J'imagine que ça vous donne un bon aperçu d'à quel point Estelle a beaucoup réfléchi à tout ça.
C'est comme si là on va bosser ensemble, tu vois, et qu'elle nous disait...
Non, parce que
tu reconnais pas tout ce que je fais pour la boîte, et du coup, moi, je me sens pas du tout valorisé en tant que femme.
Mais de
tu vois, ouais, ça fait une espèce de mix bizarre.
Mais pour moi, au contraire, il y a plutôt un tout. C'est-à-dire que peut-être elle le voit comme, en fait, j'aimerais bien que tu m'aimes pour toutes mes facettes.
Exactement.
Et par rapport à.
C'est le seul truc que je comprends, c'est que c'est effectivement Estelle.
Oui. Alors, je déteste les conneries du genre les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc. Parce que vraiment, l'essentialisme, ça me saoule.
Mais en fait, quand même.
mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a forcément des choses, des vécus, tu vois, et notamment ce truc dingue de porter un enfant et d'accoucher. C'est un truc qu'on ne vivra jamais, toi et moi, tu vois, qui fait que, en fait, ça marque des expériences qui nous séparent dramatiquement, quoi, tu vois.
Et puis surtout, je pense que c'est pas une question de genre, mais une question de l'autre. C'est juste que quand c'est pas soi, c'est toujours un peu plus compliqué de comprendre, quoi, tu vois. Enfin, peu importe ce que c'est en face, quoi.
J'avoue. Mais par exemple, tu vois, avec ton fiston, tu te reconnais parce que vous avez tous les deux un sgeg. Ce qui fait que.
Ouais.
C'est pas que ça, mais il y a aussi ce truc, tu vois, de. Ok, je pige un peu mieux parce qu'on a tous les deux un sgeg.
Disons que je me raccroche à ce que je peux, surtout.
Exactement. Et, putain.
Voilà.
Il est fort. J'ai posé une question à Estelle en lui demandant qu'est-ce qu'elle avait appris pendant cette année de maternité. Qu'est-ce que tu as appris, toi, pendant cette année de paternité sur toi ?
Sur moi. Il y a un paquet de trucs, mais je pense que l'idée globale, c'est... Un truc qui tournerait autour de le mieux est l'ennemi du bien.
Waouh !
J'essaie de prendre une phrase que tout le monde connaît pour résumer un peu ce que je fais comme expérience, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est marrant, on a fait Histoire de succès, j'ai fait plein de trucs dans ma vie déjà, cool, mais je me sens pas quelqu'un d'ambitieux, tu vois, dans l'absolu. Si ça foire, ça foire, si ça marche, tant mieux, et puis on y va, quoi. En revanche, là, par rapport à cette année, j'ai presque envie de dire, du coup, j'ai beaucoup moins d'ambition.
Ah ouais.
Alors que j'en avais pas. Tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que j'en ai pas spécialement, même si j'ai la dalle de projet, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai toujours plein d'idées et tout, mais c'est pour ça que je dis le mieux l'ennemi du bien, dans le sens où c'est une autre façon de dire qu'évidemment un gamin ça te ramène à l'essentiel. Mais aussi de dire que l'essentiel, c'est pas dans les gros trucs, quoi. Que c'est pas...
Tu veux dire que les enfants te ramènent un peu au sol, quoi.
À
faire des choses, à changer des couches.
On en parlait tout à l'heure, on parlait de course à pied, parce que c'est devenu ma lubie depuis mars. Et évidemment, c'est pas un hasard, je pense, si je m'y mets là, dans cette année-là. Au-delà d'avoir un extérieur et de pouvoir prendre l'air, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, des fois, t'as le jus pour courir un quart d'heure, tu cours un quart d'heure, quoi. Et franchement, il y a plusieurs, il y a quelques années, il y a 5-10 ans, ça n'aurait pas été possible de penser comme ça, en fait. Même si je suis un geek et que je me dis, tiens, comment je vais faire pour courir un marathon l'année prochaine, n'empêche que j'arrive aujourd'hui quand même à me dire, bah tiens, bah là j'ai le jus pour un quart d'heure, donc je vais faire un quart d'heure. Et puis, au final, dans la journée, bah finalement, j'ai pas fait tant de trucs que ça, mais bon, c'était déjà pas mal. Tu vois, un truc un peu... Je pense que ça pourrait aussi se résumer en se lâcher un peu la grappe. Et que, en fait, les vraiment, la pression, c'est juste celle qu'on se met, quoi. Tu vois.
Et ça,
personne n'en a rien à cirer que tu fasses autant de trucs dans ta journée ou pas. Ou que tu le fasses aussi bien ou pas. Ou que. Enfin, tu vois. Et pour moi, ça, c'est. D'avoir un enfant, c'est aussi de dire, bah voilà, enfin tu vois, tu vois progresser tous les jours avec des tout petits trucs. Un coup, il mange beaucoup, un coup, il mange pas beaucoup, un coup, il fait des nuits, un coup, il fait pas des nuits. Enfin, tout est hyper mouvant. Et du coup, tu dis, bon, bah aujourd'hui, c'était ça, quoi. Et des fois, c'est ça que c'est pas ça.
J'ai une dernière question pour toi.
Ouais.
Que je pose à tous mes invités dans Histoire de Daron. Imagine, Ulysse écoute ce podcast quand ouais. Il a 12 ans.
12 ans? Incroyable. Déjà, il va jusqu'à 12 ans, c'est vachement bien. Tu vois, mes ambitions sont moindres.
Ah la vache. Imagine, t'arrives à le faire en sorte qu'il survive jusqu'à 12 ans.
Ouais.
Quand je dis tu arrives, ouais. Vous arrivez ouais. Tous les deux.
Estelle, elle va y arriver, je pense.
Putain, on est vraiment sur un niveau d'ambition très fort.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Est-ce que tu trouves pas cette question géniale?
Elle est incroyable. Mais alors, waouh, c'est abyssal. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a pleuré, Estelle.
Tu la connais bien.
Ouais. Je crois que c'est quelque chose que je lui dirais, mais pas que à ses 12 ans. C'est que je suis hyper fier d'être son père. Peu importe qu'il ait à 12 ans, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est la... C'est presque merci, quoi. Ouais, je suis fier d'être ton père.
C'est une excellente réponse. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais...
Mais là, il y en a quand même.
C'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Angelo.
Merci.
C'était génial. Bon, je vous mettrai tous les liens. Je ne l'ai même pas dit, en fait. Tu fais de ce compte, balance ta peur, ou
oui, bon,
tu réponds aux gens. Bref, oh là là, tu fais tellement de choses. C'était génial, merci beaucoup.
Merci.
Et je voulais juste te dire un truc, c'est que ouais. Merci beaucoup de venir témoigner à quel point c'est dur d'être un père
ouais.
dans ces premiers mois, dans cette première année. Je crois qu'on sous-estime tellement fort. Mmh. Et je suis très heureux de t'avoir là maintenant, tu vois, où tu sors la tête de l'eau, tu vois.
Dans le jus, ouais.
plutôt que dans 5 ans où, en fait, t'en auras sans doute un souvenir un peu dilué, etc. Mais je crois que s'il y a bien l'un des trucs dont on parle pas assez, c'est justement pour les pères de trouver cette place de père quand ils sont nouveaux pères, et à quel point ça peut flinguer, comme tu le disais, en fait. Peut-être t'as aussi compris un peu mieux pourquoi ton père biologique s'était barré, parce qu'en fait c'est dur
ouais.
Et ça nécessite du travail.
Ouais, c'est ça, c'est peut-être, il y a un côté où tu peux ne pas en vouloir, en fait.
Exactement.
Ouais.
Et donc merci beaucoup de venir partager ça, et ça... Tu vois, de t'entendre, de vous entendre tous les deux avec Estelle, à quel point vous êtes conscient de vous-même, de plein de choses, de vos relations, etc. Et de vous voir à ce point-là dans le jus, ça prouve aussi à quel point c'est pas fastoche, quoi.
Ouais, on est encore là, on est encore vivant, donc
bah oui.
C'est que ça se traverse.
Merci beaucoup.
Merci, Fab.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Eskimo qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.